Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Bonsoir à toutes et à tous, toujours autant de plaisir hein, à vous retrouver comme chaque lundi, et d'être au cœur de l'actualité sportive. Alors ce soir on va parler basket, deux clubs pour le prix d'un. On parlera aussi de l'actu olympique puisqu'il y a une nouvelle présidente qui a été élue donc cette semaine. On y reviendra avec un spécialiste de l'olympisme, notre ami François Artigas. Il y aura le point foot avec Stéphane Desenclos et puis on n'oubliera pas aussi le journal des sports avec Alexandre. Alors bonsoir à toutes et à tous. Je vais commencer avec Vanessa.
Bonsoir Vanessa. Bonsoir Philippe.
Tu vas bien ?
Oui, très bien.
On est content de te retrouver.
Merci. Voilà.
Et puis nos invités, donc, avec d'abord Lenghi Zola, entraîneur donc, du club de...
Basket Paris 14.
Voilà, c'est ça. Donc, Lenghi, depuis combien de temps ?
Bah, moi, je suis arrivé au Basket Paris 14 depuis 2 ans, mais je suis coach depuis 2016.
Très bien. Et le deuxième donc, invité, lui aussi va se présenter. Il est, j'allais dire, du 13e.
Tout à fait, bonsoir. Ouais, moi, c'est François Vernet, je suis le président du Paris Sud Basket, un club du 13e depuis 2008, qui était créé dans le 13e.
Très bien, donc on va avoir l'occasion d'être au cœur de vos clubs. Et puis donc, notre homme spécialiste de l'olympisme, c'est notre ami, donc François Artigas. Bonsoir François.
Ben, bonjour à tous, bonjour à toutes.
Tu vas bien ?
Ben, très bien, oui.
Très bien, ok. Et puis on devrait avoir donc tout à l'heure notre ami qu'on connaît bien, Bruno Fraioli, hein, qui est là-bas.
Sport Business.
Oui, qui a eu l'occasion d'aller en Grèce et on est en train de l'appeler en ce moment. Donc, je sais qu'il est. Allô. Oui, bonsoir, mon ami Bruno Fraioli. Comment ça va, Bruno ?
Ouais, bonsoir, ça va. Ouais,
ouais. Alors je sais que t'es sur le terrain ce soir. Hein. Voilà. Alors.
Ouais.
En tout cas, on s'est vu sur les routes du Paris-Nice. Hein. Merci de nous accorder quelques petites minutes parce que tu as eu la chance la semaine dernière donc, d'être en Grèce et d'assister donc, à l'élection eh bien, d'une présidente.
Oui, tout à fait. Ouais. On est déjà en direct là.
Oui, oui, vas-y. Kirsty. Kirsty Coventry. Bah, j'avais promis de t'appeler vers 19h03. Hein. Donc voilà. Oui, donc 41 ans, ministre des Sports du Zimbabwe. C'est vrai que c'est une surprise quand même. D'abord une femme et en plus qui vient du continent africain.
Oui, alors bon, de ce côté-là, ce n'est pas forcément une surprise. Oui. Ce qui a été plus une surprise, ça a été l'élection au premier tour.
Oui.
Il y avait 7 candidats au total, hein, dont le français David Lapartien, qui est, je le rappelle, le président du comité national olympique et sportif français, mais également de l'Union cycliste internationale. Oui. Il se présentait donc avec 6 candidats, sortait en favori Juan Antonio Samaranch, qui est le fils de l'ancien président, que beaucoup voyaient vainqueur.
Ouais, moi, le premier, je le voyais avec Sébastien Coe jouer la victoire finale. Hein.
Et voilà, et on parlait aussi de Sébastien Coe, hein, qui est donc le champion qu'on connaît, hein, double champion olympique d'athlétisme et président de World Athletics, avec Kirsty Coventry.
Oui.
Que l'on disait protégé de Thomas Bach, qui est le président du comité international olympique.
Oui. Et donc,
s'en est défendu.
Oui.
Il s'en est. Oui, en tous les cas, il a poussé Thomas Barr, donc, qui arrivait au bout de son mandat, de ses 2 mandats. Hein, il a fait un premier mandat de 4 ans et un deuxième de 8 ans. Certains, l'année dernière, c'était à la session du CIO de Paris, lui avaient demandé la possibilité peut-être de refaire un mandat, ce que lui n'a pas voulu. Mais il a quand même un petit peu choisi son dauphin, en l'occurrence c'est sa dauphine. Franchement, c'est une grosse surprise.
Oui.
Quand en salle de presse, hein, faut imaginer, c'est une salle de presse un peu comme le Tour de France. Hein, il y avait 250 journalistes avec écran géant. Quand le secrétaire général a annoncé au bout du premier tour, avec les résultats, que les membres du CIO avaient élu un président, c'était la stupéfaction un petit peu générale. On pensait pas que ça allait être passé comme ça au premier tour. Elle a reçu donc 49 ouais, voix, ce qui est juste la limite pour être élue. Mais bon, voilà, c'est bon, elle est passée.
Ouais. Alors, ouais. Alors ça prouve quand même que le poids de Thomas Barr est encore très, très important. Hein.
Ah bah oui. Il a coopté quand même pratiquement ou même plus des deux tiers de la centaine des 109 membres du CIO. Donc il y en a certains quand même qui lui doivent peut-être un petit retour. Et ce qui s'est dit après coup, c'est qu'a priori, donc l'élection a eu lieu le jeudi à 16h, jeudi 20 mars à 16h, jusque dans la matinée, il y avait des, entre guillemets, émissaires de Thomas Barr, parce que lui ne l'a pas fait directement, c'est-à-dire des membres du CIO qui étaient très proches de Thomas Barr, qui sont allés essayer de décrocher les dernières voix.
Oui, alors on va rappeler donc 49 pour elle, 28 pour Samaranch, et seulement 8 voix pour Sébastien Coe et 4 pour David Lapartien. Quelle a été la réaction de la délégation française?
David Lapartien, je pense qu'il s'attendait de toute façon à ne pas aller très loin, mais sortir comme ça d'un premier tour, je pense qu'il ne s'y attendait pas. Mmh. Vous l'avez dit, hein, Coventry et puis Samaranch ont récolté à eux deux, je ne sais pas, pratiquement 70 ou 80% des voix, ce qui fait qu'il restait peu de voix pour les autres. David Lapartien donc a annoncé le lendemain qu'il n'était pas candidat pour un autre mandat au CNOSF, mais bon, ça se sentait déjà. Il est candidat pour l'UCI, pour l'Union Cycliste Internationale, dont le congrès et les votes, l'élection auront lieu en septembre au Rwanda, voilà, où auront lieu les championnats du monde de cyclisme sur route. Et on peut dire que il a entre guillemets laissé passer sa chance parce qu'il ne pourra pas se représenter, tout simplement. Parce que s'il est réélu, il devrait être réélu à l'UCI, il sera réélu pour un mandat de 4 ans, ce qui l'amènera en 2029. Et en 2029, quand il aura terminé son mandat, il devra quitter le CIO. Et la première réélection au CIO, le premier mandat de Kirsty Coventry, c'est dans 8 ans. Ouais. Donc il ne sera plus au CIO, il ne pourra plus se représenter.
Alors, quelles sont ses intentions à Kirsty Coventry? Elle va être dans la lignée de Thomas Barr? Ça va être une continuité dans son action?
Oui, je pense que ça va être une continuité de ce qu'a fait Thomas Barr. Hein, comme lui, c'est une athlète, une championne olympique de natation. Donc, elle va continuer à mettre l'accent sur les athlètes, sur les sportifs, sur protéger les sportifs. La crainte de voir un nouveau président un peu plus faible ou du moins qui pourrait être séduit par les sirènes du marketing, de la
libéralisation, voilà.
Voilà, du sport voulu par les États-Unis et puis le système Trump. Tout ça, c'est un petit peu balayé. On va voir comment elle est. Il va falloir être très fort parce qu'au niveau géopolitique, il va falloir garder le CIO comme un mouvement sportif mondial de référence, hein, une entité politique également mondiale importante face à la FIFA qui fait feu de tout bois et qui veut avoir une présence également mondiale très, très importante. Hein, Gianni Infantino, qui est membre
du CIO,
d'ailleurs, lui n'hésite pas à aller voir et la Russie et les États-Unis. Enfin voilà, lui, ça le dérange pas. Les affaires économiques ne le dérangent pas non plus, marketing. Donc, on peut croire que la suite logique premier mandat de Kirsty Coventry qui va débuter le 24 juin, la passation suppositoire. Elle se passe le 23 juin à Lausanne, 23 juin.
Eh oui.
Vous le savez, c'est la journée olympique. Hein.
Eh oui.
C'est, on célèbre le discours du baron Pierre de Coubertin à la Sorbonne. On peut penser qu'on sera dans un mandat de continuité. Puis je pense que Thomas Barr ne sera pas jamais très loin.
Oui, parce qu'il a été élu président d'honneur, hein, donc ça veut dire président à vie, quoi, d'honneur.
Oui, voilà. Tout à fait.
Alors on va rappeler qu'elle est ministre quand même des sports au Zimbabwe, dans son pays, depuis 2018. Ouais. Et effectivement, ouais. elle a eu 7 médailles olympiques, dont 2 médailles d'or. Et elle a 41.
Elle va laisser son mandat ministre. Oui. Elle nous l'a dit. Elle l'avait dit au président de la République et au gouvernement que si elle était élue, elle laisserait tomber son mandat. Elle va également aller s'installer à Lausanne, nous a-t-elle dit. Alors sans doute avec mari et fille. Elle a deux filles. Elle va
prendre une nounou.
Elle pouvait pas faire les deux à la fois. Elle nous a dit ça.
Oui, François.
En fait, oui, c'est effectivement la première femme officiellement présidente du CIO. Mais il y a une autre femme, une Française, Monique Berliou, qui est de 71 à 1985, a été directrice générale du CIO et c'est elle qui avait la main sur tous les contrats de télévision, contrats des villes candidates, etc. Surtout pendant le mandat de Lord Killalin. Lord Killalin gérait le CIO depuis Dublin, il venait pratiquement jamais à Lausanne, et c'est Monique Berliou qui avait la main sur tous les contrats, et notamment le contrat de la ville de Los Angeles, qui a été candidate et qui a eu les Jeux de 1984. Et ce qu'il faut remarquer, c'est que Monique Berliou, fille de Suzanne Berliou, qui était l'entraîneur de Kiki Caron, était également une championne de natation qui s'était illustrée en dos. Elle était championne 100 mètres d'eau, donc la nouvelle présidente Coventry, championne olympique de dos, et Monique Berliou, championne de dos. Mais sinon, les femmes au CIO dans les instances dirigeantes, il y en a eu très peu. Hein. La première qui a été élue en 80, je crois que c'est à Baden-Baden, c'est Flor Isava Fonseca, une Vénézuélienne, qui a été élue donc, à la commission exécutive. Et il faudra attendre le congrès de Paris en 1994 pour voir Anita de France, une Américaine, être nommée première vice-présidente du CIO. Et elle s'est présentée en 2001 à la présidence du CIO. Ça avait lieu à Moscou et c'était la succession de Juan Antonio Samaranch senior. Et malheureusement, là, elle a été battue au premier tour en n'ayant que 9 voix. Donc le parallèle avec De France qui est battue au premier tour et moins de 25 ans plus tard, Coventry qui est élu au premier tour, à mon avis, c'est tout un symbole avec la parité homme-femme qui a été la première fois acquise lors des derniers Jeux à Paris.
Et puis aussi, elle vient du continent africain, Bruno.
Oui, tout à fait, c'est la première fois aussi. Ouais, évidemment,
ça peut être important aussi, parce que c'est une façon, c'est une belle reconnaissance pour ce continent qui n'a jamais pu encore organiser des Jeux, quoi.
L'Afrique qui va organiser les Jeux Olympiques de la jeunesse d'été à l'automne 2026 et qui effectivement aimerait bien aussi avoir les Jeux Olympiques. Alors il n'y a pas beaucoup de pays qui pourraient le faire, il faut le dire, il faut être franc. À mon avis, il y a l'Afrique du Sud et puis peut-être le Maroc, mais encore. C'est vraiment une énorme organisation.
Oui. Alors, dans cette session, il y a eu aussi le retour de Tony Estanguet, hein, comme membre du CIO. Finalement, maintenant, la place est libre pour lui, pour le CNOSF.
Oui, mais ça ne l'intéresse pas du tout.
Ah bon, d'accord, ça c'est intéressant. Savoir, oui.
Non, ça ne l'intéresse pas du tout. J'ai eu la possibilité de lui parler un peu, de lui parler de ça. Et
ça, c'est intéressant.
Il m'a fait comprendre que il n'est pas du tout intéressé par cette place-là. Aujourd'hui, il y a deux candidats officiels.
Oui.
Cédric Gosse, qui est le président de la Fédération de triathlon, et président également de Rénovons le sport. Hein, il a succédé à cette place à Amélie Oudéa-Castéra. Donc il a un réseau derrière. Et puis Didier Séminet, qui a été secrétaire, qui lui est président de la Fédération française de softball et de baseball.
D'accord.
Et qui a été secrétaire général du CNOSF. Il y a eu des frictions à l'époque avec
Henriques.
Et ça, c'est ce qui a un petit peu lancé son départ. Mmh. Et puis, on parle aussi d'Astrid Guyard, qui est l'actuelle secrétaire générale du CNOSF.
Oui. Est-ce que tu as eu le temps, quand même, avec la délégation française, de parler de Alpes 2030?
Oui, oui, on a beaucoup parlé et aussi des Alpes 2030, notamment avec Edgar Groupiron, qui était le président,
était sur place,
qui est venu, qui a accordé aussi un moment avec la presse française. Ce qui est en train de se faire avec les Alpes 2030, c'est que pour accélérer les choses, le Comité international olympique met en place une cellule composé d'anciens de Paris 2024 et entre guillemets dirigé par Étienne Taubois, qui était le directeur général de Paris 2024, pour pouvoir mettre en place tous les process un petit peu administratifs afin que tout soit dans les rails d'ici la fin d'année, c'est-à-dire remettre en place tout le système des appels d'offres, la RH, les réseaux informatiques. Le CIO veut faire gagner du temps et gagner de l'argent aussi, parce qu'ils vont s'appuyer sur des gens qui ont déjà l'expertise de tout cela. Donc ça se met en place. Le seul point noir, c'est qu'il n'y a toujours pas de directeur général. C'est Edgar Groupiron qui a dit c'est moi qui vais le désigner ou l'a désigné.
C'est fou quand même.
Et ce qu'il nous a dit, c'est que lui, Edgar Groupiron, voudrait se concentrer plutôt sur les aspects marketing et commerciaux et laisser tous les aspects administratifs plutôt à son ou sa directrice générale.
Oui. François.
Est-ce qu'il était question de Barnier et de son rôle au sein de... Mais est-ce que l'État, j'avais cru comprendre que l'État lui avait donné un rôle, le ministère des Sports, un rôle officiel ou officieux, je ne sais pas, pendant an au sein de...
Voilà, c'est ça, il les accompagne là pour le moment parce qu'il a également tout savoir-faire et puis aussi il a un réseau politique. Pour aider tout cela, mais je pense qu'il ne devrait pas rester plus loin que l'année 2025, là, accompagner à mettre en place la structure et le comité d'organisation.
Très bien. Ben, merci Bruno, j'avais promis de te lâcher pas trop tard. En tout cas, merci. Merci en tout cas. Il y a la Kings League ce soir, c'est ça, avec Gérard Depiquet.
J'y suis là justement, c'est le lancement officiel de la Kings League en France. C'est un événement très important parce que c'est pour les jeunes générations une discipline qui pourrait vraiment les intéresser. Ça a été mis en place et inventé et orchestré par Gérard Piqué, l'international espagnol. C'est du foot à 7 avec des règles assez particulières. Un entraîneur peut très bien dire d'enlever un joueur de l'équipe adverse à un moment donné. C'est comme un jeu de cartes aussi. Ben voilà, tout ça plaît beaucoup à la jeunesse et je vous avouerai que là, parmi tous mes confrères en zone mixte, je suis franchement le plus vieux.
D'accord.
Et il y a plein de médias numériques qui sont là.
Eh ben oui.
Je ne vois pas mes confrères, en tous les cas classiques, que je peux voir dans les événements de football du monde, du Parisien, de l'équipe, etc. Mais voilà, c'est un événement vraiment important. Il y a beaucoup de monde, beaucoup de monde là. Ici, c'est au Dojo de Paris.
D'accord.
Voilà. Mais est-ce qu'il y a la FIFA, comment la FIFA ou l'UEFA voient ce projet?
Non.
Là, il n'y a personne. C'est vraiment une ligue à part.
Ouais. Voilà. Merci beaucoup, Bruno. À très bientôt. Merci pour tout.
Au revoir. À bientôt. Au revoir.
Merci. Au revoir.
C'est Bruno.
Voilà donc pour Bruno Fraioli. On peut rajouter certaines choses à ce qu'a dit notre ami Bruno suite à ce qui s'est passé la semaine dernière. Donc,
surtout l'énorme surprise, c'est les 8 voix de l'anglais, Sébastien Coe. Il était donné comme favori avec le fils Samaranch, et puis finalement, on peut dire ramassé.
Oui, donc on va rappeler 28 voix pour Samaranch, 8 voix pour Coe, 4 voix pour la Parsien et puis Vanta Watanale, et puis seulement 2 voix pour Elios et Al Hussein. Donc effectivement, les écarts sont énormes avec Coventry qui a donc été élu avec 49 voix. Les Jeux Olympiques, naturellement, vous avez vibré.
Ah bah oui, en plus le basket avait une place importante pour les Jeux Olympiques.
Et une femme présidente du CIO, ça vous interpelle, c'est bien?
Ah bah,
le monde change, c'est bien.
C'est vraiment très important.
On est loin de la place du baron de Pierre de Coubertin.
Hein. C'est vraiment quelque chose qui est important. Et nous, en plus, ça nous tient à cœur avec les plus jeunes.
Oui, bien sûr.
Très important d'amener les petites filles vers le sport également. Pour,
Zola?
Alors moi, j'apprécie énormément parce que je me dis que justement, nous, les petits clubs, parce que nous, ouais, même si actuellement, on est l'un des plus grands clubs de France, mais on emmène la mixité. Mmh. On emmène la mixité, on met ça de plus en plus en avant en formant des coachs, des jeunes filles, tout ça. Donc, quand il y a des femmes qui ont ces rôles-là, bah, ça attire du monde.
C'est bien.
Ça attire du monde.
Ouais. Vanessa ?
Oui, je trouve que c'est une bonne idée, hein, justement, d'aller dans cette direction.
Bon, est-ce que justement les Jeux vous ont apporté dans vos clubs à nouveau une recrue de licenciés une recrudescence de licenciés?
Oui, nous, ça oui. va. Franchement, oui. nous, vu que c'était surtout à Paris, on a eu de la chance d'avoir quelques places aussi pour certains de nos jeunes. Donc oui, ça a attiré du monde, oui. notamment dans les écoles, notamment dans l'engouement. Après, les Jeux, c'est pareil, hein, ça attire toujours du monde.
Oui, oui, non, mais bien sûr. Mais vous êtes combien là dans le club actuellement?
Actuellement, nous, on est à peu près 800. Donc, on fait partie. Ça va, franchement, on fait partie. C'est ce qu'il disait tout à l'heure. C'est tout. C'est
un
la
des
différence.
Plus grands clubs.
C'est
Paris,
ça.
Bien,
on fait partie
bien.
Du top 5 actuellement là, de France. Oui, oui. On fait partie du top 5 en termes de licenciés de France. Donc, ça va, on ne se voit pas trop.
Et dans le Paris Sud Basket.
Nous, on est un beaucoup plus petit club.
Mais c'est bien, ça, d'avoir
80,
les deux.
On a environ 80 licenciés, mais pour revenir sur les JO, et c'est vrai que la visibilité du basket, notamment avec Victor Wembanyama, on a vu un engouement sans précédent. Et le basket 3-3 aussi, ça a apporté pas mal de nouvelles personnes dans nos clubs qui étaient intéressées par cette nouvelle discipline. Donc c'est vrai qu'on a eu beaucoup d'appels pendant l'été de gens qui étaient intéressés.
Oui. Et vous avez eu donc là aussi une recrudescence de pratiquants
chez... chez les jeunes. On essaye de refuser personne, mais c'est de plus en plus difficile parce qu'on a beaucoup de demandes et ça plaît énormément. Le basket en plus c'est un sport accessible. Il y a des terrains de partout aujourd'hui dans Paris, donc on peut facilement jouer. Et puis quand on voit des joueurs comme Victor, on a envie de...
Ouais. Alors vous êtes combien cette année là?
Alors cette année, on est 80, on est essentiellement des jeunes, donc à partir de U15 jusqu'à U7. On a environ une cinquantaine de jeunes qui s'entraînent tous les mardis. Et après, une grosse partie de l'équipe c'est aussi, du club, c'est aussi les seniors.
Oui.
On a trois équipes seniors masculins. On essaye de développer des sections féminines, mais ce n'est pas toujours facile d'arriver à se développer dans ce domaine-là, notamment d'avoir accès à des créneaux qui permettent de donner de la place à tout le monde pour pratiquer ce
basket. Est-ce qu'on peut encore vous rejoindre? Est-ce que c'est possible si, après cette émission, beaucoup disent « Tiens, je veux faire le basket », c'est possible?
La saison, elle touche presque à la fin.
Donc c'est râpé. Il faudra attendre la rentrée maintenant.
Maintenant, on prend des essais ou des jeunes qui veulent venir voir pour essayer. Mais après, c'est vraiment au mois de juin et au mois de septembre où on recrute très rapidement parce qu'au final, comme je vous dis, les créneaux ne sont pas illimités et on est vite rempli par nos jeunes.
Oui.
Alors nous, actuellement, on peut encore recevoir parce que nous, on a eu la chance justement de créer une section loisirs. Parce qu'en fait, la section loisirs, c'est pas forcément des gens qui ont envie de faire du basket en compétition.
Oui.
Soit des jeunes qui veulent découvrir d'autres choses, soit des vieux, des personnes qui ont juste envie de venir une fois par semaine faire un peu de sport. Donc voilà, nous, on accueille encore, on a encore ouvert en termes de loisirs. Jusqu'à la fin de l'année, on essaie vraiment de prendre le maximum de personnes. Mais en termes de compétition, on est pareil. On a des sessions. On a des sessions pendant les vacances. On fait des essais. Parce que nous, vu qu'on a la chance d'avoir des équipes à un niveau régional, donc on est obligé de fonctionner par exemple par essais pour les équipes compétition. Donc on fait des essais pendant les vacances scolaires. Mais après, on a tous la même problématique. Hein. Même s'ils ont beaucoup moins de licenciés, on n'a pas de créneau. Et aujourd'hui, tous les clubs parisiens, tous les clubs d'Île-de-France, c'est ça la grosse problématique.
Tous les sports, toutes les associations qui viennent devant ce micro disent tout ça.
C'est ça en fait, c'est qu'on veut accueillir du monde, on veut mettre les jeunes dans le sport, on veut pousser, on veut aider, mais si on n'a pas de créneau...
C'est vraiment ça. Une spécificité parisienne, parce qu'en province, ils n'ont pas ces problèmes-là.
Ah bah oui, c'est sûr.
Et c'est vrai qu'on a beaucoup de jeunes, dans le 13e encore plus, il y a beaucoup de collèges, il y a beaucoup de familles, il y a beaucoup d'enfants qui veulent pratiquer du sport. Et on est tous à la recherche de structures pour les accueillir.
Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Votre tranche d'âge, elle va de combien à combien dans votre club?
Alors, chez les jeunes, c'est de 7 à 15.
Oui.
Et après, pour les seniors, c'est tous les adultes sont les bienvenus, sans limite d'âge.
D'accord, ok. Donc, les créneaux d'entraînement, c'est quel jour?
Alors, les jeunes, c'est le lundi et le mardi. Donc, le créneau principal, c'est le mardi au gymnase Charcot, côté de BNF. Et les seniors, c'est le lundi.
Et il y a un peu de compétition aussi, je suppose qu'il y a des matchs. Alors, vous les faites où et vous jouez où?
Alors, les matchs, principalement, ils sont au gymnase Glacière, au rue de la Glacière. Donc, voilà, c'est de la compétition départementale. On est surtout là pour prendre du plaisir, s'amuser dans un esprit compétitif. Mais le plus important, c'est...
Mais je disais, il y a de la concurrence. Il n'y aurait pas moyen de tout mutualiser, par exemple, avec Don Rémy?
Ah, ça, c'est la question
qui fait mal.
Ça, c'est la question qui fait mal parce que...
Non, mais...
Il y a déjà eu des concertations, peut-être?
Oui, mais il y a eu plusieurs clubs. Il y a eu même des clubs qui sont mutualisés. Oui, au bout d'un certain temps, ils se séparent. Bah, aujourd'hui, Paris Basket...
Oui.
Paris Basket, c'est de base une entente. Mm-hmm. Une entente, c'est Dorémy, Finance et Ménilmontant.
Oui, oui, oui.
De base, c'est trois clubs. Oui, oui, oui. Et après, il y a eu les pros qui sont venus, donc ils sont sortis. Mais aujourd'hui, par exemple, Paris Basket, ils sont encore en entente avec la Dorémy, si je m'en souviens bien.
C'est Paris Basketball, hein.
Oui, c'est
le président, il y tient.
C'est ça, Paris Basketball.
Le président Cannes, il y tient, le président américain.
Ouais, non, mais après, je pense qu'il y a des clubs, ils ont envie de mutualiser, mais après, il faut aussi voir les directions que les présidents. Parce que, par exemple, moi, je suis simple entraîneur. Il est président. Par exemple, si le président du club d'en face et mon président, ils n'ont pas la même vision, ils n'ont pas le même chemin.
Il y a une place, de toute façon. Ouais.
Et on sait très bien que quand on mutualise, il faut qu'il y ait un président. Il ne peut pas avoir deux présidents, il ne peut pas avoir deux visions différentes en haut. Donc, en fait, je pense que c'est ça qui est un peu dur de mutualiser, surtout à Paris, avec autant de jeunes. Il y a énormément de jeunes à Paris. Et aujourd'hui, moi qui travaille un peu avec des joueurs qui vont jusqu'en National 1, National 2, on rencontre beaucoup de joueurs d'Île-de-France.
Bien sûr.
En fait, à ces niveaux-là, il y a beaucoup de joueurs qui viennent d'Île-de-France, mais qui partent. Qui partent parce que, comme il disait tout à l'heure, en province, on leur propose 5-6 entraînements par semaine. Nous, on va peut-être leur proposer 2-3 maximum pour certains clubs. Des fois, dans certains clubs, ils n'ont qu'un seul entraînement par semaine. Donc, quand tu fais de la compétition, d'autres, ils préfèrent partir. Ils vont arriver en province, ils vont avoir 4 entraînements, 5 entraînements par semaine. Donc au final, ça fait vraiment une vraie différence sur du long terme.
Oui.
Il y a un souci d'attractivité qui est dû au créneau et qui...
En fait,
du coup, vous avez peut-être du mal à... Ma question, c'est est-ce que vous avez du mal un peu à construire des équipes? Vu qu'il y a beaucoup de rotations, mais en même temps, bon, ça ne vous empêche pas d'en construire. Vous faites un peu face à ça?
La plupart des clubs, ils fonctionnent sur des détections. En fait, par exemple, sur des équipes compétition, on est obligé de trier. Malheureusement, on ne peut pas accueillir tout le monde. Malheureusement, aujourd'hui, par exemple, nous, chez nous, on a des équipes au meilleur niveau régional qui font de la compétition, qui ont peut-être un championnat à jouer, qui ont des play-offs à jouer. Donc au final, sur un effectif, on ne peut pas prendre, on joue à 10, on ne peut pas prendre 30 gamins sur un effectif, sur une équipe. Sinon, à 30 dans un gymnase pour une heure et demie d'entraînement, on est obligé de sélectionner. Et après, justement, c'est pour ça aussi que nous, par exemple, dans notre club, on a fait le côté loisir pour permettre aussi à tous ces jeunes-là qu'on ne peut pas forcément accueillir en compétition.
Non, allez-y, parlez surtout en face du micro. Voilà.
Qu'on ne peut pas accueillir en compétition, ces jeunes-là, on peut leur promettre quand même du basket, on peut les aider à se développer, on peut les accueillir et on donne la place au maximum de gens. Oui. Mais tant que je pense qu'en Île-de-France, tant qu'on n'aura pas résolu ce problème-là, de créneaux, on continuera à perdre nos meilleurs gamins en Île-de-France qui partiront dans d'autres régions parce que on peut pas leur donner le meilleur.
C'est-à-dire ils vont dans les départements franciliens limitrophes, quoi, le Val-de-Marne, l'Essonne,
carrément en province parce que en banlieue, ils ont aussi les mêmes soucis.
Ah oui.
Même en banlieue, c'est pas que propre à Paris 75, c'est vraiment l'Île-de-France, on a ce souci-là de pas avoir de gymnase, pas avoir comme il disait bien. Dans certains départements dans le sud, c'est leur propre gymnase. Ils ont un gymnase pour un club. Donc ça veut dire qu'ils peuvent avoir leur créneau à eux, avoir les clés du gymnase. Donc
c'est un confort.
C'est sûr. Bon, on va marquer une petite pause musicale et puis ensuite on va poursuivre concernant le basket et notamment la vie au sein de vos clubs.
Shade.
Voilà, donc effectivement sur le marché de Marie-Galante. L'historique de votre club, vous aviez dit que c'était un des clubs les plus importants de Paris, un des 5 clubs majeurs. Il date de quand votre club ?
Bah non, Paris 14 a été créé en 2015, mais par contre avant.
Ah, c'est pas si vieux que ça.
Non, parce que avant, elle faisait partie de la JAM.
D'accord.
Voilà, okay. C'est une grande structure. Après, oui. Ils sont séparés et à partir de 2015, ils ont pris le nom. Ils sont devenus indépendants. Ils ont pris le nom de Paris Basket 14. Mm-hmm. Et donc après, à partir de là, petit à petit, ils ont récupéré certains droits qu'ils avaient aussi de la JAM à l'époque. Mm-hmm. Mais après, ils ont récupéré Paris Basket 14. Et après, ce qui a aussi aidé, et je pense là où ils ont bien travaillé, parce que moi, je suis arrivé après,
oui.
Ils ont bien travaillé, c'est quand ils sont arrivés dans le 14e, il n'y avait pas vraiment de club dans le 14e. Par exemple, dans le 13e, je sais qu'il y a, à l'époque, il y a la Dorémy, il y avait déjà l'US Métro à l'époque, il y a plusieurs clubs à l'époque, oui. Dans le 14e.
Il y a même Saint-Hippolyte Loisir, j'ai regardé un petit peu en cherchant le...
Ouais, voilà,
il y a donc... même un club qui s'appelle Saint-Hippolyte Loisir, donc c'est pour ça, la mutualisation, ça serait bien quand même. Hein. Ouais.
Donc voilà, et au final, on a commencé à avancer petit à petit. Après, nous, où le président, la direction mettent l'accent, c'est vraiment sur la formation. Que ce soit des jeunes, des jeunes, mais surtout des encadrants. Je pense que aujourd'hui, c'est important de former les encadrants. Nous, on essaye vraiment que tous les encadrants, que ce soit les jeunes, les plus anciens, de faire des formations. En plus, maintenant, la fédération met en place des formations régulières pour tous les ans. Si un coach veut se former, a vraiment la possibilité via la fédération de se former tous les ans. Donc voilà, ils mettent vraiment l'accent sur ça. C'est avancer ensemble et donner, mais recevoir. Ça veut dire que nous, on donne, c'est un échange. Ça veut dire que nous, ce qu'on donne, on va le recevoir, mais pas de la même manière. Nous, par exemple, nous on aime juste que les jeunes, ils viennent, ils soient respectueux, ils viennent à l'heure, ils soient disciplinés, ils donnent le maximum.
C'est comme ça qu'on reçoit. Et dans l'ensemble, ça se passe bien ?
Bah, franchement, ça va. Franchement, ça va. Là, ça fait... Moi, j'y suis depuis 2 ans. Et franchement, cette année et la saison dernière, en jeune, on a réussi à avoir toutes nos équipes premières dans les meilleures divisions régionales parce qu'on n'a pas de championnat de France cette année. Nous, par exemple, on n'a que de la région. Donc là, cette année, à la fin de la saison, on aura nos U20 garçons, nos U21, parce que maintenant, c'est passé en U21, garçons qui vont faire les play-offs régionales, nos U15 garçons qui vont faire les play-offs régionales, nos U13 garçons qui vont faire les play-offs régionales. Je sais qu'en filles aussi, on a une des équipes qui va faire les play-offs régionales. Donc ça va, franchement, on essaie d'avancer. On se plaint pas trop, à part sur les créneaux. On se plaint pas trop, voilà.
Parce que c'est quoi vos créneaux ? C'est 7 jours sur 7 pratiquement ?
Bah,
un petit peu partout ?
Ouais. Après, nous, on a plusieurs. On tourne vraiment dans le 14e.
Ouais, c'est ça.
Je sais qu'on a des créneaux à Montparnasse. On a des créneaux au gymnase Canges, où c'est vraiment notre gymnase central, à Canges. Et après, sinon, on en a au gymnase Dido, où je sais que notre National 3, donc notre équipe première, joue. Par exemple, parce que la salle, elle est plus grande, parce que quand je ne suis pas homologué pour la National 3, donc notre équipe première, elle joue à Dido, au gymnase Dido, juste en descendant du tram, c'est juste là, voilà.
Ouais, les matchs, pratique, déjà.
Les matchs, c'est les samedis soirs, c'est ouvert, c'est gratuit, venez voir les matchs, les joueurs, ils seront contents, on va remplir la salle. Voilà. Ah, non, mais c'est vrai, ça fait aussi plaisir à nos gamins d'avoir une équipe en National 3.
Oui, bien
donc,
sûr.
Certains qui... ont pas encore la vision professionnelle tout de suite, ils ont au moins déjà cet objectif-là, de se dire, j'ai une équipe au moins en National 3, si je me débrouille bien, je peux accéder.
Donc je peux rester et je peux y jouer, quoi.
Voilà, je peux y accéder, donc voilà. Donc franchement, de ce côté-là, ça va.
Et tous ceux qui viennent pas que du 14e, je suppose, ils viennent de tous les arrondissements de Paris.
Ouais. Nous, on accueille tout le monde, parce que par exemple, via les détections, moi aujourd'hui, je suis responsable du pôle sur les U21, et par exemple, moi dans mon équipe, on a 2 équipes en U21 sur 30 gamins. On en a 4 du 14e. Qui viennent un peu de partout. On en a même qui viennent de banlieue. Parce que, après, le niveau aussi, ça attire. Quand on a des bons résultats, on attire des jeunes. Mais nous, on en a de partout. Nous, on accueille vraiment de tout public.
Vous arrivez à vous piquer les joueurs entre clubs ?
Bah,
non, c'est de bonne guerre.
Mais c'est ça, après, ça fait partie du sport. Le joueur va aller où il se sent le mieux et où il pense que son projet va aboutir. Donc nous, on est là pas pour garder les joueurs, pas pour... On est là pour laisser... En tout cas, nous, on ne garde pas les joueurs. Si aujourd'hui, il y a un joueur qui vient nous voir et nous dit « J'ai un meilleur projet ailleurs », Bah, si on peut l'accompagner, on va l'accompagner. Mais nous, on n'est pas là pour garder les joueurs.
Il n'y a pas vraiment de concurrence
joueurs.
Entre les clubs. Après, il faut que chacun suive son développement.
Non, mais c'est important, ça. C'est important parce qu'il y a quand même des clubs de basket.
On change pas de club pour le plaisir, ou alors on le fait parce qu'on a besoin, on recherche quelque chose, ou ça convient, ou le club convient pas.
C'est ça.
Il n'y a pas de concurrence à Paris.
Et vous, dans le Paris, dans le 13e, c'est pareil. Il n'y a que des jeunes du 13e ou ça vient de beaucoup
plus loin. Nous, c'est comme c'est moins l'esprit de compétition. C'est vrai que c'est beaucoup de jeunes du 13e, du collège Claude Monet notamment. Voilà, ils sont. Non, c'est vraiment. Ouais.
Alors, votre vocation, c'est un club formateur. Mais si par exemple, à un moment, il y a un club qui arrive, il y a un joueur ou une joueuse qui arrive à un certain niveau, vous allez carrément lui conseiller d'aller.
Bien sûr,
dans
on,
un
les,
club plus,
on les accompagne,
plus
on les guide, on peut prendre contact avec d'autres clubs. Ça nous est déjà arrivé.
Ah oui.
On a des jeunes qui sont allés au Paris 14 il y a quelques années. Donc, ça peut arriver de les guider. Le but, c'est leur développement à eux, c'est pas de les garder pour nous, pour gagner des matchs.
C'est bien, c'est bien.
Quand c'est des jeunes de 15 ans. Oui. Et c'est le but de tout club de les former, de les développer, de les voir grandir. Hein.
Moi, j'ai une question pour vous deux. D'un point de vue sociologique, comment vous les accompagnez, qu'est-ce que vous observez du moins?
Moi, je trouve ça vraiment génial, surtout là, à cet âge en U15 où ils ont 14-15 ans, on les voit changer chaque semaine ou chaque mois. On les voit rentrer presque dans l'âge adulte. Donc ça, c'est vraiment très important pour nous de les accompagner dans le basket, mais aussi en dehors, comme tu dis, la ponctualité, le respect envers le coach, envers ses coéquipiers, donner le maximum sur le terrain. On les a accompagnés là, ce week-end dernier, faire un tournoi en Bretagne, et pour nous, c'était super important. Ils sont allés dormir dans des familles, ils étaient bien éduqués, tout le monde était super content de les accueillir. Et c'est vrai qu'on est content de donner aussi une bonne image du 13e, de notre club, et de les accompagner là-dedans. Ouais.
Oui, parce que je crois que chez les jeunes, c'est le sport numéro 2 après le foot, dans les arrondissements. Hein.
Ouais, c'est probable.
Faut le dire. Hein. Oui.
Alors,
peut-être le premier, même dans le 14e plus que le foot.
Bah, franchement, ça, le foot va toujours attirer un peu plus.
Ouais,
le foot, c'est plus facile de jouer au basket dans Paris. Voilà. Il y a des playgrounds de partout, il y a des terrains sous le métro, dans le 13e. Il y a des playgrounds.
Oui, mais alors, justement, est-ce que ça vous emmène des pratiquants? Le basket des rues, c'est souvent une question que j'ai posée. Est-ce que malgré tout, ça vous amène des pratiquants? Parce qu'on pourrait avoir effectivement ces terrains, jouer, mais pas forcément venir vous rejoindre.
Franchement, c'est chez les seniors, c'est très fréquent qu'on a des gens qui viennent nous voir en disant je joue dehors depuis 2 ans, 3 ans, 5 ans, j'ai envie de jouer en compétition. Chez les jeunes, après, c'est plutôt les copains du collège qui vont ramener leurs copains au club et tout ça.
Et est-ce que vous avez des problèmes aussi qu'on retrouve dans le football avec les parents qui veulent voir leur enfant, garçon ou fille hein, d'ailleurs, devenir au plus haut niveau et lorsque les enfants ne jouent pas assez à leur goût, est-ce qu'ils viennent vous engueuler, s'approcher avec vous? Ça arrive souvent, ça?
Après, chaque entraîneur, je pense, de ce côté-là, gère les parents en fonction de lui et de son expérience.
C'est incroyable.
Voilà, parce que moi, je parle de mon cas personnel. Moi, en début d'année, je fais une réunion. Peu importe les catégories que j'ai, je fais une réunion avec les parents et je leur dis des règles. Cette année, c'est ça. Maintenant, soit vous les suivez, soit vous les suivez pas. Après, on a beaucoup de gamins, comme on a dit. On ne peut pas accueillir tout le monde. L'objectif d'un entraîneur, c'est d'aider le gamin. Ce n'est pas de gérer les parents. On les gère parce que, par respect, parce que quand même, c'est les parents. Mais notre objectif premier, ce n'est pas de gérer les parents. Donc si les parents aussi, il faut qu'ils comprennent que les entraîneurs, ils sont diplômés. C'est leur métier. Moi, par exemple, pour mon cas, moi, je fais que ça. C'est mon travail.
C'est une question que j'aurais posée après, mais vous êtes donc des entraîneurs rémunérés.
Oui, moi, vu que je fais que ça, après, il y a des entraîneurs bénévoles, il y a des entraîneurs,
Donc, nous, on a plus de bénévoles. Comme on est un plus petit club, on a plus de bénévoles.
Mais il y a quand même des gens payés.
On a un service civique qui nous accompagne parce que ça prend beaucoup de temps.
Donc et les parents, franchement, c'est la plus grande part. Moi, je pense que quand les parents sont dans la bonne direction, même en termes de performance, surtout sur les plus petits, parce que nous, on a vu des matchs où le joueur, il a 13 ans, il a 11 ans, tu lui donnes une consigne, il se retourne, son père dans les tribunes qui crie autre chose et il fait autre chose. Et en fait, certains parents, ils ont du mal avec ça, en fait. Ils comprennent pas que c'est des parents...
Chacun sa place, quoi.
C'est
chacun
ça.
Son rôle.
Et c'est ça, en fait, le problème que... Souvent, moi, je le vois sur des jeunes coachs, parce que nous, on a aussi des coachs sur ces catégories-là. On a beaucoup de coachs en formation. Et ils ont du mal, justement, à gérer ça, parce que les parents, ils prennent tellement de place qu'au final, ça déteint sur le gamin. Et certains parents, aujourd'hui, franchement, il faut qu'ils comprennent. Et les pires, moi, je vais vous dire, les pires, c'est les parents qui ont déjà pratiqué l'activité.
Ah oui.
Eux, c'est les pires. Et c'est les pires. Parce que souvent, ceux qui connaissent rien, ils vont laisser leur enfant, ils vont dire, ils font confiance au coach. Mais ceux qui connaissent, ah, mais le coach, il fait pas ça bien, il fait ça. Sauf
ouais, qu'au fait. Ouais, je vois, nous, dans l'équipe senior, on a tous des enfants maintenant et qui commencent à jouer au basket. Et c'est vrai qu'on essaie tous de faire attention, de garder une distance par rapport au coach et au club, parce qu'ils sont aussi dans d'autres clubs de Paris, de garder une distance pour pas interférer dans les choix du coach et les conseils du coach, même si on a un avis en tant que basketteur. C'est important de comprendre que le coach, les choix du coach, les conseils du coach, c'est ça qui est le plus important et c'est ça qui amène le jeune vers le progrès.
Et donc, en tant que président, vous êtes aussi amené des fois à faire ce genre d'arbitrage?
Alors nous, on est moins compétition, donc on a moins ce problème-là. Et c'est vrai qu'on n'accepte pas de comportement de parents comme ça qui viendraient interférer. Et pour nous, c'est vraiment important le coach, il a un rôle prépondérant dans le développement du jeune d'un point de vue basket et pas seulement. Et si on tolère de pas écouter son coach, mais en fait, c'est partout dans le reste de la vie que ça se reproduit.
Alors, il y a des coups de gueule des fois comme coach
Sur les joueurs?
Oui.
Bien sûr.
Bien sûr.
Bah, bien sûr. Après,
des retards ou des... Voilà.
Mais après, personne n'est parfait et les joueurs, ils sont là pour apprendre.
Bien sûr.
Nous, on est là pour les accompagner. Et je rejoins la question que vous m'avez posée tout à l'heure. En fait, le basket, nous, on ne le voit pas que sur le terrain. Nous, on le voit en dehors du terrain. Moi, par exemple, la catégorie que je gère, c'est des U21. Ça part de 17 ans à 21 ans. C'est aussi une catégorie où nous, on est là pour les accompagner à devenir aussi des hommes et des femmes responsables. Il ne faut pas oublier ça. C'est aussi notre travail d'éducateur. Parce qu'avant d'être compétiteur, entraîneur, on est éducateur. Donc, si nous, on ne leur apprend pas ces bases-là, et des fois, certains, ils nous le disent, ils sont plus encadrés chez nous que chez eux à la maison. Et nous, on le voit, parce qu'on a des gamins qui viennent un peu de partout, certains qui viennent de banlieue, certains qui ont des situations familiales difficiles. C'est pas grave, nous, on les accueille, mais on a aussi ce rôle-là, on peut pas, surtout un gamin qui a une situation familiale difficile, qui vient au basket pour s'aérer l'esprit, pour être bien, s'il n'est pas bien cadré, ça va faire que s'empirer derrière. Et nous, on a vraiment ce rôle-là, nous, en tout cas, le club met le point sur ça, qu'on essaie d'accompagner au maximum les gamins. C'est-à-dire que aujourd'hui, moi, mes U21, ils savent que s'ils ont un souci et que je peux intervenir, même si on n'est pas dans les créneaux d'entraînement, ils vont m'apprendre leur téléphone, ils vont m'appeler, je vais intervenir. Et moi, je pense que c'est ça vraiment le métier d'entraîneur, surtout nous, à nos petits niveaux.
Ouais, ça, c'est vraiment un truc chez nous qui est aussi très important, d'être présent pour les jeunes et qu'il y a un lien vraiment particulier qui se crée entre les jeunes et l'entraîneur.
Est-ce qu'il y a des problèmes de trouver des arbitres, parce que ce sont arbitrés eux-mêmes, je pense que ça doit être le cas dans le basket loisir, mais dans le basket de compétition, comment ça se passe? Sont des arbitres officiels ou des arbitres qui sont désignés par chaque club? Comment ça se passe exactement?
Nous, plus on avance dans les niveaux, plus c'est la fédération qui désigne les arbitres. Plus on a les petits niveaux, la plupart du temps, nous, les clubs essaient de former eux-mêmes leurs arbitres, ils les envoient en formation. Donc on met beaucoup de jeunes sur les petites catégories, tout ça, parce qu'il n'y a pas assez d'arbitres pour tout le monde, il faut se le dire. La fédération, à partir de région, ils mettent les arbitres, et franchement, ils gèrent les arbitres, il y a toujours des désignations. Mais un peu en dessous, à partir de la départ, des fois, on peut se retrouver dans des week-ends où il n'y a pas d'arbitres. Donc si le club ne forme pas d'arbitres, ça devient compliqué. Donc c'est pour ça aussi, la formation, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on met l'accès, la formation, c'est aussi former des arbitres, former des OTM, donc les gens qui gèrent l'IMAR, qui gèrent la table, mettre les parents dedans pour être responsables de salle, tout ça. Donc nous, on essaie vraiment de pousser tout le monde à se former, même les parents, même les parents, pour voir, en fait, pour avoir le moins de soucis possible.
Ouais. Du coup, pour rebondir sur la question qu'on avait posée tout à l'heure, peut-être qu'en étant un peu plus formé, est-ce qu'ils arrivent peut-être à accepter un peu mieux les décisions, à peut-être mieux comprendre aussi, parce que finalement, ils sont... Bon, vous disiez tout à l'heure que souvent, c'est les parents qui viennent de la discipline qui sont les plus casse-pieds. Mais c'est peut-être bien aussi qu'ils aient la formation pour peut-être encore un rappel.
Mais après ça, nous, les clubs, ça, c'est vraiment pour tous les clubs. Je pense que tous les clubs aimeraient bien que les parents se forment. Maintenant, après, on ne peut pas obliger les parents.
Oui.
C'est ça, en fait, aussi la problématique. C'est que nous, on va proposer... Les parents venaient être responsables de salle, venez faire ça. Maintenant, c'est au bon vouloir du parent. Si le parent, il vient juste dans un état d'esprit de laisser son enfant le samedi matin pour s'en débarrasser pendant 2-3 heures.
Fait, c'est de l'investissement voilà. bénévole. Après, c'est dans ça. Le club, c'est dans la vie du évident, club, participer à la table, responsable de salle, c'est très important. Moi, en tant que président, des fois, je change de casquette et je deviens arbitre tous les mais week-ends. Oui. Et ça me prend du temps.
Et ça va, ça se passe bien dans les tribunes?
Globalement, ça va.
Après, on sait très... on connaît le public du basket quand même. Il est très, très enthousiaste, mais dans l'ensemble, respectueux.
Non, franchement, oui. Dans l'ensemble, on n'a pas de soucis, rarement des soucis... En tout cas, les joueurs et les gradins, rarement. Souvent, c'est plus entre les supporters qui se cherchent. Mais franchement, de ce côté-là, ça se passe bien.
Donc, les résultats sont bons dans votre club. Vous avez combien d'équipes engagées en compétition?
Oula, attendez. On en a deux. Ah oui, là, il y en a quand même pas mal.
Oui, non, c'est bon. Non, là, d'une façon générale. Hein.
D'une façon... Là, on doit en avoir une vingtaine.
Une vingtaine, oui. Et donc, il y a des secteurs un petit peu mieux que d'autres, c'est-à-dire, il y a une catégorie de jeunes, peut-être, un petit peu...
En garçon, on est toujours au-dessus.
Oui.
En filles, un peu moins. Mais là, ça va, avec les JO, avec tout ça, on commence vraiment à récupérer des filles. Mm-hmm. Des filles, et après, c'est toujours ça. C'est qu'il faut aller travailler dans les écoles, faut aller chercher, faut aussi faire de la pub, faut faire de la communication, parce que c'est ça aussi qui attire du monde. Mmh. Aujourd'hui, on est dans un monde de réseaux sociaux. La communication n'est pas bonne...
C'est bien.
Et nous, on essaie vraiment d'être très actifs sur les réseaux pour faire beaucoup de communication. Mais voilà, en garçon, il n'y a jamais de souci, parce qu'il y a toujours beaucoup plus que demandé. Mmh. Mais ça, je pense que c'est dans beaucoup de clubs.
Ouais.
Et en filles, les filles, il faut aller les chercher.
Vous avez eu votre équipe, l'une de vos équipes féminines, en tous les cas, qui a participé à la NBA Games Week. C'était en janvier dernier, me semble-t-il.
Oui, quand les Américains sont venus en France.
Exactement, avec un des formateurs coach de la NBA. Est-ce que c'était la première fois que vos filles participaient à ce genre d'événement? Est-ce que...
Celles qu'ils ont fait là, celles qui étaient là, c'était leur première fois. Ils n'avaient pas fait les autres années, donc elles étaient super contentes. Et ça motive aussi, même, elles en ont parlé, justement, c'est ce qu'on disait, elles en ont parlé à leurs copines. Et au final, leurs copines, elles se disent, il y a possibilité peut-être que s'ils reviennent, nous aussi, on va aller. Donc, ça attire du monde.
Ouais.
Et franchement, c'est très bien, ça. Et je pense même que certains clubs français devraient avoir ce petit fonctionnement-là, de venir de temps en temps faire dans des clubs. Par exemple, nous encore, on a 800 licenciés. Mais par exemple, dans leur club, ils ont 80 licenciés. Si aujourd'hui, un club français, par exemple le Paris Basketball, parce que c'est eux qui sont ici, ils viennent chez eux faire avec les pros, les petits, mais ça va attirer du monde. Et surtout que les petits vont être contents de voir des stars. Les petits, à cet âge-là, eux, ils les voient à la télé, s'ils les voient en vrai. Et c'est ça, en fait, que la différence, que quand la NBA arrive, tous les petits sont à l'affût sur ça.
Oui. Alors, vous parlez de la NBA. Est-ce que ce n'est pas un petit peu l'arbre qui cache la forêt? Parce que les jeunes, quand on leur dit le basket, tu t'y intéresses. NBA, par contre, le championnat français, peut-être moins maintenant avec le Paris Basket, mais on s'y intéresse un peu moins. Villeurbanne, Limoges.
Ça, c'est vraiment pour les connaisseurs. Je pense que voilà. Après, il y avait aussi, faut pas se mentir, il n'y avait pas d'exposition.
On en parlait hors antenne, il y a du mal quand même.
Pendant un long moment, il n'y avait pas d'exposition.
Le problème communication, ils ont des efforts à faire. Hein.
C'est ça. Pendant un long moment, il n'y avait pas d'exposition. Donc, c'est aussi là où le foot, je pense que ça a pris beaucoup plus d'avance.
Non, mais le rugby même, qui est devenu le sport numéro 2 en France, alors que le basket, à un moment, après les Jeux.
Mais en fait,
après les Jeux de 2000, il pouvait être le sport numéro 2. Hein.
C'est une histoire d'exposition. C'est une histoire d'exposition. C'est aujourd'hui, est-ce qu'il y a beaucoup de journaux, il y a beaucoup de médias qui parlent tous les jours du basket? Aujourd'hui, tous les soirs, vous allez à la télé, sur Internet, vous entendez parler de foot.
Tous les jours.
Et en fait, c'est ça aussi l'exposition. C'est que, par exemple, si maintenant, aujourd'hui, tous les jours, on vient, on parle du basket, maintenant, en plus, là, on a la chance en ce moment d'avoir des jeunes qui arrivent à NBA, qui sont performants. Derrière Victor, il y en a d'autres. Il y en a d'autres qui sont performants. Donc, ça attire du monde. Si on surfe sur ça, je pense que le basket va redevenir ce que ça doit être dans le basket.
Il y a des clubs, le Paris Basket, c'est un bon exemple, qui essaie aussi d'offrir une nouvelle vision du basket.
Il y a tout un show autour du
basket, comme c'est fait en NBA. C'est vrai qu'aujourd'hui, aller voir le Paris Basket à l'Adidas Arena, c'est une expérience.
J'en ai fait l'expérience aussi, c'est vrai que c'est un grand show.
Tous les gens qui vont, même ceux qui ne connaissent pas le basket, ils adorent. Et ça participe à développer le basket. Après, ce n'est pas des choses qui se font en claquant des doigts pour faire devenir le basket le plus visible. Et puis la NBA, elle mange aussi une grosse partie de la visibilité du basket en France. On a eu une année avec Victor Wembanyama en JP Elite où tous ces matchs étaient diffusés à la télé et tout ça. Et ça a donné un petit peu de visibilité. Mmh. Mais c'est vrai que c'est toujours difficile.
Alors, devenir l'antichambre du Paris Basketball, c'est possible. Ça se fait pour le rugby avec le Stade Français et puis le Racing qui vient chercher dans les clubs franciliens. Est-ce que, pourquoi pas, dans vos clubs?
Bah après, ça, comme je disais tout à l'heure, c'est plus une question dont les présidents doivent répondre. Mmh. Parce que nous, on est juste simple entraîneur. Nous, on n'est pas forcément décisionnaire de ce genre de choses. Maintenant, après, par exemple, le Paris Basket, je sais que la Dorémy, juste à côté, le Ménilmontant et le ministère de Finances sont en entente. Ils travaillent déjà ensemble avec ces clubs-là. Ouais. Ça, je sais qu'ils sont déjà des antichambres de ces clubs-là. Mais pour que d'autres clubs viennent se greffer, ça, malheureusement, moi, en tant qu'entraîneur...
C'est-à-dire aller recruter le Paris Basketball qui va recruter parmi vos clubs. Quoi.
Ah non, mais après ça, ils le font. Après ça, ils le font. Parce que justement, c'est ce qu'ils disaient, nous, on est là pour accompagner. Si aujourd'hui, nous, on n'est pas centre de formation, même si on est l'un des meilleurs clubs actuellement, on n'est pas centre de formation. Le Paris Basket, ils sont toujours devant nous parce qu'ils sont centre de formation. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, nous, nos meilleurs jeunes, s'ils vont à Paris Basket, parce que Paris Basket, c'est un centre de formation, ça ne nous pose aucun souci. Mmh. C'est normal, c'est la suite logique. Oui. Si le jour où nous, on pourra devenir centre de formation, on pourra leur proposer ça, là, on pourra concurrencer. Mais aujourd'hui, c'est les meilleurs clubs qui perdent les meilleures jeunes.
Et je crois qu'ils veulent faire une belle équipe féminine aussi, hein, qui jouera d'ailleurs à Carpentier.
Ouais, non, mais c'est bien, c'est bien. Ils sont en National 2 déjà cette année-là, donc ça se passe bien.
Est-ce que vous avez des agents qui viennent tourner un peu autour de vos joueurs,
il y en a dans le basket
des plus jeunes,
aussi, hein.
Pour essayer de les... Les recruter, donner des promesses. Aux parents, est-ce que vous dites aux parents, attention, si les parents ont un jeune qui perce un peu, attention de ne pas tomber dans le piège d'agents qui vous promettraient la lune. Est-ce qu'il y a aussi un message que vous délivrez aux parents dans de ce point de vue-là?
Tu veux répondre, je crois. Vas-y. Alors, nous, par exemple, nous, comment on fonctionne, c'est les parents, comme je vous ai dit tout à l'heure, on ne peut pas les gérer. Ça veut dire que si on a un parent qui vient nous voir, qui nous demande des conseils sur ça, bien sûr, c'est notre rôle de l'accompagner. Mais après, malheureusement, il y a beaucoup d'agents, comme vous avez dit, qui viennent parler dans les oreilles des parents, et surtout des parents qui n'y connaissent rien.
Ils voient le rêve.
Bah, ils oublient que l'enfant a été accompagné par un club, a été accompagné par un coach. Ils vont directement du côté de l'agent. Mais après, sinon, nous, si on peut mettre les parents en contact avec des bonnes personnes pour aider leur enfant à aller plus loin, nous, on le fait. Et ça, je pense que c'est tous les clubs de Paris. Il n'y a pas de club de Paris qui a vraiment envie de garder ses jeunes. On a tous envie, on est des clubs formateurs, on a envie que un de nos jeunes est en pro, et c'est aussi une reconnaissance pour le club. Quand plus on va envoyer de jeunes là-haut, plus le club est reconnu à sa juste valeur. C'est un club formateur parce qu'ils ont envoyé un tel, un tel, un tel, un tel au niveau professionnel.
Vous toucherez une prime de formation.
Comme pour le foot,
si un de vos jeunes perd dans un grand club professionnel, est-ce que vous, petit club entre guillemets, vous allez toucher une prime de formation ou est-ce que c'est prévu?
S'il est considéré comme club formateur, s'il vient de là, normalement le club est censé toucher une petite partie. Maintenant, après les sommes, je ne peux pas vous dire.
C'est pas 7 ou 10% quoi.
Moi, je ne peux pas vous dire, nous on n'est pas là-bas.
Ça nous est jamais arrivé chez nous.
Nous, on ne peut pas vous dire, voilà, nous, c'est pas notre rayon, mais normalement, c'est comme ça. C'est quand le club vient former au club. Par exemple, l'ancien club de Victor Wembanyama, normalement, ils ont dû percevoir une petite partie, ce qui est normal.
Zola, c'est le prix de la licence et de la cotisation, c'est combien dans votre club?
C'est 200... Oula, ça a encore changé.
Ouais, non.
C'est 275 euros.
D'accord. Et les couleurs de vos maillots, c'est quoi?
Nous, c'est bleu et blanc.
Bleu et blanc,
c'est
d'accord.
Ça.
Ok. Et François?
Chez nous, c'est 250 euros et on est vert et orange.
Vert et orange, oui. Ouais.
Bon, surtout vert.
C'est un lien historique, non?
C'est historique, le choix qui a été fait il y a 15 ans ou quelque chose comme ça.
On parlait du basket 3-3, c'est des activités qui se font aussi dans vos clubs maintenant?
Alors le basket 3-3, c'est vraiment une discipline qui a été créée il y a quelques années. Nous, on était pionniers parce qu'on avait des joueurs qui étaient vraiment passionnés par la discipline. On a gagné le premier titre de Paris en 3-3. Après, le 3-3, c'est une discipline qui est particulière parce qu'elle se joue beaucoup en extérieur. Mm-hmm. Elle se joue pas... Elle n'a pas été faite pour les clubs et fait... Il n'y a pas de créneau d'entraînement spécifique 3-3, par exemple. Oui. Donc, il y a un championnat 3-3 qui est officiel, mais il y a aussi beaucoup de tournois de 3-3 qui s'organisent comme ça, où les joueurs vont, ils jouent, et avec voilà ouais. des...
Mais ça, c'est un beau développement du basket.
C'est
hein.
une
ça,
discipline,
c'est, bien, hein.
C'est une discipline. Je ne sais pas si vous jouez avec vos jeunes au 3-3, mais c'est une discipline qui est très différente du basket 5-5 et qui est vraiment intéressante à découvrir.
Oui, surtout que dans le 13e, il y a eu pas mal de playgrounds, rénovés, un peu comme dans Paris. Je ouais. pense notamment près du stade Charles Moreau, si je vous dis pas de bêtises.
Il y a celui de Charles Moreau, il ouais. y en a sous le métro Corvisart, il y en a à Glacière.
Mais il y en a partout maintenant.
À Carpentier, les playgrounds de Carpentier, il y a beaucoup de joueurs.
Et du coup, alors, puisque c'est aussi une question, ça joue beaucoup à l'extérieur, donc climat, forcément, est-ce qu'on est un peu dépendant ou est-ce que l'hiver, quand même, vous avez des salles ou du moins, comment on s'organise la saison un peu finalement.
L'hiver, c'est difficile de jouer en extérieur. Après, on peut jouer au 3-3 en intérieur, c'est pas un problème.
Ouais.
Mais pour les playgrounds, on joue moins en extérieur.
3-3 en intérieur l'hiver et puis ouais.
Très bien. Allez, on va envoyer la deuxième pause musicale et puis après, on retrouvera notre ami Stéphane Desenclos. Voilà, avant d'appeler notre ami Stéphane Desenclos, juste un petit mot, François, par rapport au basket dans le monde olympique.
Le basket, il y a eu une révolution, c'était avec l'arrivée de Samaranch, qui a voulu faire des Jeux olympiques ouverts aux professionnels. Il a d'ailleurs enlevé le mot amateur de la charte olympique, et c'est lui qui a fait venir en 1992 à Barcelone la fameuse... Dream Team, et puis bon, après, ça s'est institutionnalisé, et à tous les Jeux Olympiques suivants, on a eu les meilleurs professionnels en basket avec les équipes américaines, etc.
Vous parliez des efforts que vous faisiez dans les écoles, les promotions, ça se fait aussi pour votre club, François ?
C'est les jeunes qui sont les meilleurs commerciaux du club, ou les meilleurs. C'est eux qui expliquent ce qu'on fait et qui le vendent le mieux. Hein.
Oui, d'accord. On appelle notre ami Stéphane Desenclos. Donc, vous voyez, c'est du direct. Hein, donc, pour le point foot et notamment revenir sur les matchs de l'équipe de France. On a notre ami Stéphane Desenclos. Stéphane, bonsoir.
Oui, bonsoir Philippe. Bonsoir à toutes et à tous.
Alors,
bonsoir.
Je vais reprendre le titre de nos amis de l'équipe. Quel kiff, Stéphane, sur le match de l'équipe de France hier soir.
Ah bah oui, il faut reconnaître quand même que ça fait... très longtemps, moi je pense depuis la Coupe du Monde 2022.
Oui.
On n'a pas autant pris de plaisir en regardant un match. Et puis même, il faudrait regarder la Coupe du Monde. Après, un match, prendre du plaisir avec un match de l'équipe de France, ça fait vraiment très comme ça en tout cas. Ça fait vraiment très très longtemps que c'était pas arrivé.
Hein. Ouais, bon, c'est vrai qu'après le match aller complètement raté, hein, 2-0 surtout cette première mi-temps, l'équipe de France, elle ne pouvait pas donc avoir cette réaction. Hein. Ça me rappelle un petit peu, et on y était en novembre 2013, hein, après le match contre l'Ukraine.
Ouais, tout à fait. Mais alors là, au-delà du scénario, il y a quand même eu, je crois, 20 tirs, oui. 15 occasions, 20 corners.
Mais ça rend la victoire encore plus belle.
Ouais, non, mais ça a été quand même un match. Je trouve que ça a vraiment été un super, super bon match. Hyper excitant. Puis moi, à tous les gens qui laissent les nouvelles compétitions et tout, moi, on peut dire quand même pour une fois bravo à l'UEFA avec cette compétition. D'avoir ajouté les quarts de finale, c'est quand même mieux qu'un match amical ou même un match de poule. C'est, ça excite tout le monde. D'ailleurs, vous avez vu, je crois qu'il y a eu 6,3 millions de téléspectateurs.
Ouais, alors, ça tombe bien justement parce que depuis un moment, les audiences télé vis-à-vis de l'équipe de France étaient nettement en baisse. Hein. Même par rapport au 15 de France, hein, qui était largement plus suivi. Et là, j'allais dire qu'avec ce match, l'équipe de France se réconcilie un petit peu avec son public quand même.
Ouais, tout à fait, mais surtout que en rugby, c'est vrai qu'on compare avec le rugby, ils ont ce chic de rendre important tous les matchs quand c'est des tests de matchs, ou surtout là particulièrement quand c'est le tournoi destination. Donc c'est une compétition pour tout le rugby qui est très importante, hein, quasiment autant importante qu'une Coupe du Monde. Mais après, nous, c'est vrai que c'est par rapport à quoi, on compare par rapport à quoi.
Les équipes de France, hein, simplement.
Ouais, ouais, mais je veux dire, l'alignation, c'est pas tellement excitant, quoi. Un Israël-France au mois de novembre ou un match comme ça, c'est pas, quand les joueurs sont fatigués et tout, c'est pas quelque chose qui est hyper passionnant. Mais on voit quand même que dès qu'il commence à y avoir un peu d'enjeu tout, quoi, moi je trouve que ça a été le match parfait pour relancer entre guillemets le football de quoi, l'équipe de France, quoi. C'est-à-dire le scénario d'avoir besoin de gagner par 2-0, tout quoi. Donc, ça a été donc très 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 intéressant, et le résultat ne surprend pas, quoi, au niveau d'audience, au niveau passion, au niveau tout ça, quoi.
Alors ça veut dire qu'aussi, parce que l'équipe de France, elle a eu un profil un petit peu plus offensif, elle n'avait pas le choix dans ce match retour, avec notamment l'apport d'Olysée.
Ouais, tout à fait. Non, c'est même pas un profil plus offensif. C'est plus offensif.
Oui, il n'est pas autant récupérateur que les autres milieux de terrain. Hein.
Voilà. Bah, bien sûr que non. Ouais. Mais un profil beaucoup plus technique, voilà. Beaucoup plus tout, quoi. J'ai même, quand vous mettez, par exemple, un Manu Koné à la place d'un Matteo Guendouzi, vous avez un joueur beaucoup plus technique qui sait faire beaucoup plus de choses avec le ballon, quoi. Donc ça change aussi dans les personnalités des joueurs, quoi. Après, les joueurs choisis, effectivement, c'était beaucoup plus offensif, mais il fallait. Et puis, on peut maintenant reprocher quand même peut-être à Didier Deschamps de ne pas avoir mis cette équipe au match aller, quoi, ou au moins une équipe qui se rapproche de celle-ci, quoi.
Ouais, en tout cas, on va rappeler 2-0 match aller pour la Croatie, puis donc 2-0 après prolongation, 5-4 au tir au but, donc à l'issue de ce match retour. L'équipe de France qui jouera d'ailleurs le 5 juin, et on en salive déjà, face à l'équipe d'Espagne. Ouais. Là aussi,
c'est 4, ça est... Je crois que c'est le... Ah oui, dans le 5.
Non, c'est le 5 juin. Ouais. Non, j'ai vérifié ce matin. Voilà. Donc, l'équipe d'Espagne qui, après son nul aux Pays-Bas, donc 2-2, eh bien, l'équipe d'Espagne a été accrochée 3-3 après prolongation à domicile. Elle a gagné aussi au tir au but 5-4. Donc, ça va être une super belle revanche de l'Euro 2024.
Voilà, tout à fait. Ça présage d'un super match. Et puis surtout, ça présage quand même aussi de bonnes choses pour ceux qui s'inquiétaient un peu, peut-être, de voir la fin de la,
oui.
fin de la, de la, de l'ère Didier Deschamps, parce que tous ces joueurs, quoi, c'est tous ces joueurs, beaucoup de ces joueurs sont encore en devenir, hein, Mikael Olise, je pense que c'était ça, je sais pas, peut-être sa cinquième sélection, ouais. Ou quelque chose comme ça. C'est qu'il y a un joueur de 23 ans, il y a des Désiré Doué qui arrive derrière, pourquoi pas après un Ryan Cherki, Barcola qui est jeune, tous ces gens-là, ils vont prendre aussi de l'expérience et tout d'ici la Coupe du Monde avec les qualifications. Cette compétition va leur servir et donc on peut dire que il y a des belles perspectives. Alors qu'on commençait à peu dire oui, les critiques c'était l'équipe de France, il y a plus tellement de il y a moins de talent qu'il y a une époque qu'avant. Maintenant il y a pas de raison quoi.
Alors l'autre demi-finale, tu l'as dit, hein, ça sera donc le 4 juin, Allemagne-Portugal, les Portugais battus au Danemark 1-0, qui ont quand même aussi peiné hein, pour remporter le match retour, 5-2 après prolongation, et puis l'Allemagne qui est allée gagner en Italie 2-2, et qui a partagé le nul à domicile 3-0, après avoir été quand même menée hein, 3-0, donc Allemagne-Portugal, ça sera l'autre belle demi-finale.
Ouais, ça sera une belle demi-finale, surtout que les Allemands jouent chez eux.
Oui.
Le foot allemand est un petit peu en reconstruction. Ils ont quand même été un peu déçus, quoi, même énormément déçus, je pense, de leur euro, malgré tout. Et c'est sûr qu'ils vont miser beaucoup là-dessus. Et ils seront très certainement, bien sûr, favoris, parce qu'ils jouent à domicile et puis contre les Portugais. Donc ça va être là aussi, ça va être très intéressant à voir. Moi, je dis encore merci de c'est mieux que.
Merci Platini. Ouais.
Non, mais merci d'avoir créé cette compétition, parce que sinon, on aurait le droit à quoi sinon, l'Équipe de France, elle perdait là, elle aurait débuté par deux matchs de qualification pour la prochaine Coupe du Monde, et ça aurait été quoi, je ne sais pas, Kazakhstan, et puis une autre équipe, et l'intérêt, il aurait été bien, bien moindre, quoi.
Oui, bah justement, là, du coup, avec cette qualification pour le Final Four, eh bien, l'équipe de France débutera ses éliminatoires donc pour le Mondial en septembre avec l'Ukraine, l'Islande et l'Azerbaïdjan.
Voilà, donc on va avoir France-Espagne à la place de France-Ukraine ou France-Islande, donc merci quand même.
Les espoirs, par contre, nous ont fait un beau match la veille de notre défaite contre la Croatie, 5-3 contre l'Angleterre. Ils jouent actuellement contre la Slovaquie. Bon, du coup, avec la prestation de l'équipe de France hier soir, certains vont peut-être devoir attendre pour intégrer Léa Cherki, Akiliouche. Ça va être un petit peu compliqué pour eux.
Voilà, maintenant après. Moi, je pense surtout, ces deux profils déjà, les deux là que vous avez cités, ces deux profils qui sont complètement différents. Mmh. Et je pense que c'est Ryan Cherki qui va devoir le plus attendre. Mais bon, de toute façon, Didier Deschamps, il avait un petit peu prévenu, en fait, si on avait un peu compris entre les lignes, c'est que Désiré Doué jouant la Coupe du Monde des clubs avec le Paris Saint-Germain cet été, quoi, à la fin du printemps, au début de l'été, il n'aurait pas été sélectionné pour jouer l'Euro Espoir. Mm-hmm. Alors que des joueurs comme Cherki, Akliouche, ils le sont. Donc c'est pour ça qu'il les laisse aussi à la disposition de l'entraîneur de Gérald Batikl. C'est vrai qu'ils sont derrière. Si les autres, c'est vrai qu'il y a des jeunes, il y a Barcola, il y a Doué, puis Olise par exemple, et puis il faut pas encore oublier que Kylian Mbappé, c'est 25 ans, 26, mm-hmm. ouais, bah, ouais. 26 ans.
Ouais, 26 ans maintenant.
26 ans qu'il y a Mbappé, Ousmane Dembélé c'est 27 ans, c'est pas non plus des, il y a pas de, il y a à part peut-être derrière et encore il y a pas de trentenaire quoi, il y a que des jeunes dans cette équipe, donc c'est vrai que il faut être sacrément fort pour pouvoir prendre la place quoi. Mm-hmm. Un Cherki par exemple, effectivement Cherki fait il y a un très bon début de saison, il y a beaucoup de bruit qui est fait autour de lui. Maintenant, il faut qu'il montre qu'il est plus fort que Dembélé, Barcola, Olise et Mbappé s'il veut jouer en attaque en équipe de France. Quoi.
En tout cas, on parlait encore de cette phase finale de Ligue des Nations. Sur les quatre équipes qui la joueront, trois l'ont gagnée quand même, Stéphane. Hein, Portugal, Espagne et France. Hein.
Ouais.
Voilà.
Ouais. Il n'y a que l'Allemagne qui n'a pas gagné, qui va quand même, je pense, qui va quand même, à mon avis, selon moi, attaquer en devenir peut-être favori de la compétition. Je ne sais pas, il faudra voir avec l'Espagne, mais comme le vous avez remarqué, il y a des champs hier, il y a encore beaucoup de matchs, beaucoup de choses pour ces compétitions, surtout pour les joueurs de ces équipes, qui sont des joueurs qui font partie des plus grandes équipes européennes et qui, pour beaucoup, vont avoir beaucoup de matchs à jouer, de matchs très importants à jouer d'ici le mois de juin. On va voir comment ça va se passer au niveau des blessures, de la fatigue, de plein de choses. Quoi.
Bon, il y avait quand même des compétitions en dehors de l'équipe de France. Il y avait une journée de nationale, la 26e journée, qui s'est recalée comme la Ligue 1. On va quand même rappeler donc, la défaite du Paris 13 Atlético au Mans 1-0.
Alors là, ça ne s'arrange pas pour. Hein.
Ouais. Le nul donc, de Versailles à Châteauroux 2-2, alors que Nancy est exempt. Donc l'écart se réduit un petit peu en tête du championnat, on le disait depuis quelques semaines. Nancy en tête à 45 points, devant Le Mans et Boulogne-sur-Mer 44 points. Il y a un golavrage supérieur, donc plus 11 pour Le Mans par rapport à Boulogne-sur-Mer plus 9. Quatrième, Orléans qui a décroché 38 points. Et en bas de classement, donc attention pour Versailles qui est 14e avec 28 points. Et il y a 15e, Nîmes, Châteauroux et le Paris 13 Atlético avec 24 points. Mais attention, Nîmes n'a pas encore été exempt.
Ouais. Ah ouais.
Mais c'est vrai que ça s'arrange pas. Du coup, si le championnat s'arrêtait, le Paris 13 Atlético redeviendrait donc équipe de National 2.
Ah, c'est fou hein, quand même. Alors qu'il y a quelques semaines, ils étaient nettement mieux. Et puis ça va très vite. En plus, avec cette histoire de matchs d'exempt, il suffit que déjà on est sûr de pas jouer un match quoi, donc c'est compliqué quoi, même devant c'est compliqué aussi, donc ça va être bouillant jusqu'au bout quoi. Et malheureusement, entre Nancy, Le Mans et Boulogne, il y a une des équipes qui va rester sur le carreau, quoi, au lieu de devoir jouer
qui joueront le barrage au moins contre
qui jouera le barrage quoi, mais... ouais, donc c'est environ.
Ouais. Allez, un petit mot sur les féminines aussi. On va quand même rappeler la victoire de Lyon en Ligue des Champions dans son match aller. Victoire au Bayern de Munich 2-0. Lyon qui recevra pour le match retour ce mercredi à 20h45. Et puis en championnat, les Lyonnaises ont aussi cartonné. Elles ont gagné le fameux derby contre Saint-Etienne 5-0. À noter aussi la nette victoire du Paris Saint-Germain à Guingamp 6-2. Le Paris FC qui bat Strasbourg 3-1. Et Dijon qui va s'imposer au Havre 2-0. Donc pas de changement pour les quatre équipes de tête. Lyon en tête avec 52 points, devant Paris Saint-Germain, deuxième 42, troisième le Paris FC 41 et quatrième Dijon 33.
Voilà, ouais, mais il y a des grandes chances que de toute façon ça reste comme ça, jusqu'au bout, hein, puisqu'il n'y a pas de. Il n'y a plus de gros matchs pour ces équipes-là. Il y a 15 jours, il y avait un match Dijon. Fleury, je crois, qui était très important pour Fleury, surtout Fleury-Dijon, je crois. Mm-hmm. Fleury pouvait passer quatrième en cas de victoire, l'a pas fait. Maintenant, Dijon est quand même solide. Pour moi, c'est quand même l'équipe de la saison. Quoi. C'est assez impressionnant. Là. Ils ont été gagnés au Havre, c'est ça. Ils ont été gagnés au Havre. Mm-hmm. Et c'était pas gagné d'avance, comme on dit. Donc non, chapeau. Mm-hmm. Après avoir fait un match nul à Fleury, c'est bien.
Très bien Stéphane, merci en tout cas pour ce point foot. Bonne semaine et puis rendez-vous la semaine prochaine. Voilà.
Ouais, rendez-vous la semaine prochaine et puis maintenant tout va s'accélérer encore. Hein.
Ouais, c'est calme cette semaine en matière de foot. Hein. C'est calme cette semaine. Hein.
Cette semaine c'est calme. Il y a qu'un match du championnat, mais tout de suite après il y a la Coupe de France. Quoi, pour
Et après les Coupes d'Europe et puis tout s'emballe après. Hein, c'est ça.
Ouais, après, voilà. Tout s'emballe de nouveau.
Voilà. Merci Stéphane.
Allez, bonne soirée à toutes et à tous. À lundi prochain.
Merci pour donc Stéphane Dezenclos, notre ami rédacteur en chef du quotidien du sport. Bon, on a parlé du CIO, on a parlé de foot, mais il y avait une autre actu sportive très dense et très abondante cette semaine et ce week-end.
C'est une grosse actu sportive. Ouais, bonjour à tous. Ouais. Journal des sports chargé. On commence avec la fin de saison de biathlon. Oui. Les résultats des épreuves à Oslo, Holmenkollen en Norvège. Chez les hommes, c'est le Suédois Samuelsson qui remporte l'épreuve d'hier, suivi par le Français Éric Perrault. Quentin Fillon-Maillet, lui, termine à la 5e place au classement classement général, les Norvégiens Lagred et Bo Jones finissent premier et deuxième. Un Français sur le podium, c'est Éric Perrault, justement. Quentin Fillon-Maillet termine cinquième et Émilien Jacquelin septième. Chez les femmes, c'est l'Allemande Preuss qui termine la course en première position.
De pas grand-chose, hein. Oui. Une chute. Hein.
Ça se joue vraiment de peu. C'est vraiment dommage. Ouais. C'est la Suédoise Auberg qui termine deuxième. S'ensuit trois Françaises, Lou-Jean Monod, justement, troisième. Océane Michelon, quatrième. Et Paula Beauté, cinquième. Au classement général, c'est bien l'Allemande Preuss qui remporte cette Coupe du Monde. 5 Françaises dans le top 10.
5 Françaises dans le top 10, c'est énorme.
Ça faisait longtemps que ce n'était pas arrivé. Ouais. Lou-Jean Monod, deuxième. Julia Simon, troisième. Océane Michelon, cinquième. Jeanne Richard, sixième. Et Justine Breza-Boucher, huitième. Mm-hmm. En ski alpin maintenant, résultat de l'avant-dernière semaine de Coupe du Monde à Sun Valley aux États-Unis. Chez les hommes, c'est Lukas Förstein, l'Autrichien, qui remporte l'épreuve, suivi par son compatriote Raphaël Asser et le Suisse Franjo Van Almen. Premier Français du classement, Nils Allègre, onzième. Au classement général, Marco Odermatt est toujours leader, suivi par Henrik Kristoffersen et Loïc Meillard. Clément Noël, quant à lui, le Français, est dixième. Ouais.
C'est pratiquement joué, ça va se finir cette
semaine.
Bon, je crois que ça y est, on connaît déjà les deux.
J'ai envie de mettre une pièce sur Kristoffersen, personnellement.
Ah, bon, on verra.
Chez les femmes, c'est la Suisse Gudber Ami qui remporte l'épreuve à Sun Valley, suivie par l'Américaine Lindsay Vonn et l'Italienne Federica Brignone. Romane Miradoli est arrivée à la cinquième place. Au classement général, par contre, là, il n'y aura sans doute pas de surprise. C'est Brignone qui finira sans doute leader, Gudber Ami deuxième et Goggia troisième. Première française du classement, c'est Romane Miradoli, mais seulement à la 28e position. C'est dire là en difficulté les Français sur le ski alpin. Et avant de sortir de cette page sport d'hiver qui fait tant plaisir à Vanessa.
Périne Lafond.
Voilà, Périne Lafond qui remporte son sixième titre de championne du monde à Saint-Moritz en Suisse. Mmh. On passe en athlétisme maintenant et un bilan des Français au championnat du monde en salle Nankin en Chine. La France termine 8e avec une médaille d'or remportée par Marie-Julie Bonin à la perche et une médaille d'argent remportée par Willem Belossian au 60 mètres haies.
Ouais, qu'on avait d'ailleurs passé en interview puisqu'on l'avait vu au meeting de Bercy au mois de février. Ouais.
En cyclisme, Philippe, ça va te faire plaisir. Résultat du traditionnel Milan-San Remo qui se déroulait samedi. C'est les Néerlandais Van Der Poel qui a remporté la course en 6h22 minutes et 53 secondes, suivi par l'Italien Filippo Ganna et le Slovène Tadej Pogacar.
Que des costauds,
ouais. Pogacar 3e, c'est rare pour être souligné, franchement. En Formule 1, c'était le Grand Prix de Chine cette semaine.
Les McLaren.
Et énorme performance de McLaren, puisque ces deux pilotes, Oscar Piastri et Lando Norris, ont fini aux deux premières positions. George Russell, lui, a fini 3e. Début de saison compliqué, par contre, pour Ferrari, parce que Lewis Hamilton et Charles Leclerc ont été disqualifiés pour la course de ce week-end. Au classement des constructeurs, McLaren du coup est leader avec 78 points, Mercedes 2e, 57 points, Red Bull 3e avec 36 points et Alpine, l'écurie française, qui pointe à la dernière place du classement avec toujours 0 points et aucun pilote dans le top 10. Mm-hmm. En rallye, il y avait une race au Kenya
Evans,
hier.
Evans à nouveau.
Voilà, Elfyn Evans, le Britannique, s'est emparé de la première place devant Ott Tanak et Thierry Neuville. Adrien Fourmeau, le Français, termine 17e. Au classement des constructeurs, Toyota est toujours leader. Et chez les pilotes, ça nous donne donc Elfyn Evans leader, Thierry Neuville 2e, Ott Tanak 3e, Katsuta Takamoto 4e et les Français Sébastien Ogier et Adrien Fourmeau à la 5e et 6e place. En rugby maintenant, après celui des hommes, c'est celui des femmes qui débute. Première journée du tournoi Destination. Et les Françaises commencent par une victoire assez facile contre les Irlandaises 27-15. Les Anglaises pulvérisent les Italiennes 38-5. Et les Écossaises battent les Galloises 24-21. Au classement, l'Angleterre est leader avec 5 points. La France et l'Écosse juste derrière avec 4 points. Le Pays de Galles 4e avec 1 point. Et l'Irlande et l'Italie ferment leur match avec 0 point. Chez les hommes en top 14, ont joué la 19e journée. Et le Stade français a gagné contre l'Aviron Bayonnais 31-27. Et le Racing 92 contre Clermont 23-21. Ouais. Donc au classement, ça souffle un petit peu pour nos clubs franciliens. Le Stade français 11e et le Racing 12e. En basket, ça va faire plaisir à nos invités. Voilà. 30e journée d'Euroleague cette semaine.
Écoutez bien, et le Paris Basket.
Le Paris Basket a gagné contre Milan 92-79. Lyon-Villeurbanne qui perd par contre face au Real Madrid 91-70. Et Monaco qui gagne contre Fenerbahçe 91-82. Au classement, donc Monaco 4e. Paris qui monte d'un cran à la 7e place. Et Lyon-Villeurbanne est toujours 15e. En championnat, donc 22e journée. Nanterre a gagné sur le parquet de Saint-Quentin 76-67. Et Paris aussi contre Strasbourg 87-79. Au classement, donc, les Parisiens sont 3e et les Nanterrois 11e. Handball, 20e journée de championnat masculin. Le PSG affrontait Ivry.
Un petit derby.
Sans surprise, bien sûr, Paris a gagné 41-28. Et Créteil a perdu contre Nîmes 28-24. Au classement, donc, le PSG est toujours leader à 1 point de Nantes. Créteil est 13e et Evry est toujours dernier.
C'est fini.
C'est terminé.
Ouais. C'est fini depuis longtemps.
Ouais. C'est terminé. Ouais. Chez les femmes, on jouait la 17e journée de championnat et donc le Paris 92 a perdu contre Plan de Cuc 34-33. Au classement, le Paris 92 est 10e. Metz toujours leader à 2 points de Brest-Bretagne. D'ailleurs, les Brestoises qui jouaient ce week-end leur 8e de finale aller en Ligue des Champions contre... Ouais, un petit but, 27-26. Ouais. Elles ont perdu contre Podravka Vegeta. Match retour, par contre, samedi à 18h. En volet, on jouait la 26e journée et dernière journée de Marmara Spike League. Ouais. Et Paris.
Saison régulière. Hein,
parce de saison régulière, parce que oui, il y a les playoffs. Ah ouais. C'est ça. Paris a gagné contre Toulouse 3-1. Idem pour le Plessis qui gagne après 6 matchs sans victoire contre Cannes 3-0. Mais bon, c'était une équipe de Cannes qui était remaniée, puisqu'ils étaient sûrs de terminer dans les barrages. Donc voilà, ça, rien ne bouge. Le Plessis finira dernier. Et relégué, malheureusement. Et Paris pointe à la 9e place.
Ouais, saison finie pour Paris.
Alors. Saison finie, pas de barrage, pas de phase finale. Ouais, c'est terminé. Ouais. Chez les femmes, pareil, c'est fini. Et Levallois termine sur une victoire 3-0 contre Bordeaux. Et le club francilien, par contre, finit en première place de la saison régulière. Et donc, naturellement,
jouera les playoffs.
Voilà, les quarts de finale en playoff. Et bien sûr, comment terminer ce journal des sports sans rendre un hommage à George Foreman, une légende de la boxe, Philippe, qui s'est éteinte ce vendredi. Ouais. À 76 ans, 81 combats en professionnel, 76 victoires dont 68 par KO, donc c'est tout simplement incroyable. Voilà, donc il repose en paix.
Et puis un match énorme que tout le monde se rappelle contre Mohamed Ali, il avait gagné.
Ouais.
Ouais. Voilà pour cette abondante actu sportive. François, tu voulais rajouter peut-être quelque chose concernant ce qu'on a dit sur l'actu olympique avec notre ami.
L'actu olympique, c'est l'ancienne ministre des Sports qui a reçu l'ordre olympique. Valérie Forneron, d'une personne qui s'est très très impliquée dans la lutte contre le dopage et dans l'économie sociale aussi, puisque elle est secrétaire générale de la Matmut. Et je crois que c'est bon, c'est une récompense. Enfin, cet honneur qui est rarement donné à une femme, une Française, ça honore le sport français et en même temps tous ceux qui se battent contre le dopage. Voilà.
Et puis un petit mot sur les volontaires. Le projet, malheureusement, ne pourra pas avoir lieu. Il fallait quand même en parler.
Les volontaires, ça aurait été bien de pouvoir en parler pour le premier anniversaire des Jeux Olympiques, de sortir un livre. Malheureusement, ce n'était pas possible parce que c'était des contraintes, disons, trop importantes par rapport à certains éditeurs. Donc voilà, le projet est abandonné, mais bon, j'aurai quand même une pensée pour mes amis volontaires.
Bien sûr.
Donc en juillet prochain, pour les 1 an des Jeux Olympiques.
On aura tous une pensée, voilà. Merci François.
Merci
pour
tous.
Le basket, donc qu'est-ce qui reste cette saison pour vous? Il y a des rendez-vous importants, François?
Là, c'est la fin de saison, on joue contre le Paris 14 samedi soir.
Ah c'est
soir,
bien, vous voyez, c'est le derby.
On va pouvoir se retrouver.
Voilà, pas fait exprès.
Et puis non, on va finir la saison... donner le meilleur et puis espérer finir le plus haut possible.
Oui, il n'y a pas d'opération caritative ou autre dans les prochaines semaines?
Non, on n'a rien de prévu là-dedans, peut-être un tournoi de fin d'année, mais on verra.
Et donc, si on peut vous rejoindre, on le dit, il y a un site internet.
Sur les réseaux, Facebook, Instagram, on est là.
D'accord, ok. Et toujours avec un bel état d'esprit. Hein. Faut le dire, c'est la particularité de votre club. Ça, hein.
C'est vraiment le plus important pour nous, c'est se développer tout en gardant un esprit... collectif, de fair play, de bonne humeur, passer du temps sur le terrain et en dehors tous ensemble, passer des moments.
Zola, vous, même philosophie, on l'a dit, on l'a découvert au sein de cette émission.
Ouais, alors après nous, il nous reste encore pas mal de choses parce que là justement pour nos premières équipes qui sont en région, le championnat finit dans 2 week-ends et après les choses sérieuses commencent.
C'est-à-dire les play-offs?
Les play-offs, voilà et... En U20, on a une revanche à prendre parce que la saison dernière, on a perdu en finale. Mm-hmm. Donc, on aimerait bien la ramener cette année. Et on a 3 équipes engagées, non 4, donc une des filles, une féminine. Donc, on aimerait bien finir la saison correctement. Et après, oui, après nous, je sais qu'on a une grosse détection qui va se faire là, au club le 13.
Ouais.
Donc, le week-end des vacances.
Ah oui.
Le dimanche 13.
Ouais. 13 avril. Là,
va être affiché. Voilà, et...
Alors comment faut faire pour s'y inscrire? Comment bien,
En fait, on affiche les dates.
N'importe qui peut
s'inscrire. C'est ouvert. Voilà, c'est par catégorie. On fait par tranche de catégorie. Tout le monde peut tenter sa chance. Voilà. Et vous allez sur les réseaux, vous allez sur Internet, Basket Paris 14, et vous aurez toutes les infos et les inscriptions.
Ouais. François, une minute.
Oui, je voulais rajouter que les brigadiers qui ont servi donc à frapper les trois coups pendant les JO seront en vente à l'hôtel Le Drou les 12 et 13 avril prochain. C'est intéressant, disons, d'essayer de s'en procurer un pour encore un souvenir pour les JO qui rapprochent donc le sport du théâtre. Voilà.
Merci beaucoup. En tout cas, ça a été un plaisir pour cette émission. Merci à toutes et à tous. Puis on se donne rendez-vous la semaine prochaine, Alexandre et Vanessa.
C'est ça. Hein.
Voilà, Vanessa, un petit coucou vite fait.
Oui, merci et bonsoir à tous et à la semaine prochaine.
Allez, bye bye, belle soirée. Merci
revoir,
à Jason. Merci à Jason et on vous laisse en musique comme le veut la tradition. Belle soirée à toutes et à tous. Au bout du foot dans quelques secondes.